Bonjour et bienvenue dans cette dernière émission d'une série de quatre dédiées à l'histoire de l'Institut de France. Avec nous, toujours présent, André Damien, président de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous avez publié, André Damien, dans la collection Que sais-je, un ouvrage sur l'Institut de France et sur lequel nous nous sommes basés pour réaliser cette série d'émissions. Pour ce dernier quart d'heure en votre compagnie, nous allons nous intéresser au patrimoine de l'Institut. Mais pour avoir un patrimoine, il faut avoir des ressources. Alors première question, André Damien, quelles sont les ressources de l'Institut de France ?
Ben, ce sont des ressources propres, puisque ce sont les donations et les fondations qui créent l'essentiel de notre patrimoine. Et lorsque les gens ont une fortune à léguer, il est évident qu'il est plus facile de la léguer à des gens désintéressés et en principe intelligents et cultivés que de la léguer n'importe où et surtout à l'État. Alors le résultat, c'est que la personne de droit public que constitue l'Institut de France, mais indépendante, qui s'administre elle-même, a un attrait particulier pour les fondateurs qui veulent assurer la survie de leur idéal par un organisme indépendant. J'en citerai deux personnes, le duc d'Aumale, qui a voulu donner Chantilly et toutes ses richesses à l'Institut de France.
C'était à quelle période ? C'était dans les années ?
C'est après, sous le Second Empire, et ça a dû se terminer sous la Troisième République. Et c'est là qu'il a réussi à faire cette fondation de Chantilly, qui est extraordinaire, puisque c'est l'un des plus beaux musées du monde, mais parce que il voulait pas que l'État républicain, qu'il avait, ou impérial, qu'il avait dépossédé de ses droits et de sa fortune, puisse hériter de cela. Et puis vous avez la fondation Del Duca, qui est très typique également. Madame Del Duca, qui était membre correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, a laissé sa belle fortune à l'Institut de façon à pouvoir gérer les œuvres auxquelles elle tenait et à continuer à demeurer présente dans la société par le bien qu'elle fait autour d'elle.
Alors concernant le duc d'Aumale, je suppose que en faisant un legs, il devait avoir des exigences particulières.
Ah oui. Alors les exigences du duc d'Aumale, c'est de maintenir les lieux en l'état. C'est-à-dire que c'est le seul musée dans lequel on ne peut pas prêter d'objets à l'extérieur et dans lequel l'ordre d'accrochage des tableaux est fixé par le fondateur et non pas par la fantaisie du conservateur. Et finalement, c'était prémonitoire parce que quand on voit les musées modernes qui n'ont plus d'apparence, souvent, n'est-ce pas, dans lequel on met des toiles parce que tel est le goût du conservateur, on ne sait plus ce qu'étaient les musées d'autrefois. Et là, on a un musée qui n'a pas bougé, avec les toiles qui sont rangées par ordre d'importance, même pas systématiquement par école, mais qui sont rangées dans un ordre décoratif, qui est l'ordre voulu par le fondateur et qui est aujourd'hui respecté encore.
Alors, parmi les legs que vous avez, que l'Institut a eu, il y a également, c'est un peu partout dans le monde, il y a aussi la maison de Kyrillos en Grèce.
Alors, la maison de Kyrillos n'est pas en Grèce, mais elle est sur la Côte d'Azur.
Ah, en Côte d'Azur, sur la Côte d'Azur.
C'est Théodore Reynac qui a voulu construire une maison typiquement grecque. C'est-à-dire qu'il a pris son modèle en Grèce, c'est comme si une maison d'époque grecque avait été transportée dans les airs et posée à côté sur la Côte d'Azur. C'est une très très belle maison qui est très bien entretenue. Vous avez en plus Jacques Marandré, qui est le lait de Monsieur André et de Nelly Jacques Marandré, qui est d'abord le musée de ce nom, et puis Chaly, l'abbaye de Chaly, qui est d'une grande richesse. Vous avez la bibliothèque Thiers, qui est un très bel place Saint-Georges, un très bel hôtel particulier que la nation avait rendu à Thiers après que les communards aient démoli sa maison pierre par pierre et dans lequel il y a toutes les richesses qu'il avait, c'est-à-dire les souvenirs napoléoniens. Vous avez le château de Langeais, qui est si beau, avec un pont-levis qui est le dernier, qui sont en état de fonctionnement en Europe, et qui est un lait Siegfried. Vous avez dans les bibliothèques de Chantilly la bibliothèque de Lovinjoul, qui est un instrument balsacien extraordinaire. Vous avez le manoir de Kerazan à Loctudie, qui est la fondation Astor. Vous avez une maison à Londres, qui nous permet de loger des étudiants, qui est une fondation Rothschild. Nous avons la maison de Pasteur à Arbois, qui appartient à l'Académie et qu'on peut visiter, le musée Giverny, le beau jardin de Claude Monet, qui a été rouvert au public avec tout le goût que Claude Monet y avait apporté.
Et tout ça, ce sont beaucoup de bâtiments, mais qui nécessitent aussi un investissement de la part de l'Institut. Il faut les entretenir
et certains, il a fallu les restaurer, et puis d'autres, il a fallu veiller à une conservation. Par exemple, à Chantilly, il y a des douves. Donc l'eau monte maintenant dans les douves. Au début, elle ne montait pas. Des travaux gigantesques qu'on a été obligé de faire. C'est pourquoi l'Institut a besoin périodiquement de donations pour pouvoir continuer d'entretenir ces merveilles qui nous ont été confiées parce qu'on savait que nous saurions gérer les fonds qu'on nous donnait. C'est ça qui est, à mon avis, ce qui attire les donateurs ou les testateurs, c'est qu'ils savent que cet argent est bien placé, qu'il ne sera pas placé entre les mains d'aigrefins ou bien de fonctionnaires négligents qui laisseraient péricliter l'œuvre qui a été ainsi accomplie. Alors, l'Institut est propriétaire de son palais. C'est notre centre, c'est notre maison mère.
Quai de Conti.
23 Quai de Conti. Et alors, ce palais, c'est le Collège des Quatre Nations. Alors, il a été très restauré avec beaucoup d'intelligence par l'Institut, et notamment la coupole a été restaurée avec comme salle de séance, avec beaucoup d'intelligence.
Alors au départ, rappelons-le, c'était une chapelle.
C'était une chapelle qui était au même niveau à l'entrée et à l'autel. Et on a mis une cuvette au milieu pour pouvoir ranger les académiciens de plus nombreux. Et puis vous avez le magnifique tombeau de Mazarin, le cénotaphe de Mazarin, qui est dans au fond de la chapelle, qui était chez nous, qui nous a été rendu par le Louvre en échange du Voltaire de Houdon, le Voltaire nu que nous avions et qui n'était pas très visible, enfin c'était pas très décoratif, tandis que l'admirable tombeau de Coisevox est beaucoup plus beau. Et alors, sur les bâtiments, l'aile du Collège des Quatre Nations a été respectée, et l'aile d'en face, on a été obligé de la retravailler pour faire une grande salle des séances, car on ne peut pas siéger sous la coupole toute la journée. Donc il fallait une grande salle. Et cette grande salle, ainsi que la petite salle, avec le portrait de Richelieu, à laquelle vous y allusiez à quelques instants, ont été construits par Lebas, vers 1840, le fils du conventionnel, qui était un excellent architecte et qui a fabriqué cela. Ce qui fait que nous avons...
Donc cette aile s'est rajoutée au Collège des Quatre Nations.
Voilà. Elle est à l'intérieur. On a démoli une partie du Collège des Quatre Nations pour mettre cette aile gauche quand on entre dans la cour. Cette aile gauche, qu'on comprend, un bâtiment plus moderne, plus fonctionnel et intéressant. Mais je crois que la grande richesse de l'Institut, c'est la bibliothèque Mazarine, qui est une des plus belles bibliothèques du monde, et à la fois par son décor et par son contenu.
Par son contenu, avec Mazarin, les livres de Napoléon.
Toute la bibliothèque de Mazarin est là, et surtout, à l'époque, on ne présente pas des bibliothèques sur des rayonnages. On les présente dans un cadre qui comprend des colonnes avec des statues, des antiques, des boiseries, et ce qui donne à la Mazarine un charme exquis et tout particulier. C'est la seule bibliothèque de Paris qui ait gardé son cadre ancien et qui est très rayonnante de beauté. Et en même temps, les chercheurs y sont admis et peuvent travailler sur des documents que sans cela, on ne connaît pas.
Il y a aussi les bustes, les célèbres bustes que l'on peut trouver un peu partout dans l'Institut.
Ah oui, alors, n'est-ce pas, il a été une époque où chaque membre de l'Institut se faisait faire un costume, une épée et un buste. Certains sont...
Au bout d'un moment, ça fait beaucoup de bustes.
Ah oui, voilà. Ça devient un peu cimetière. Alors, ils étaient groupés dans le salon de conversation qui précède la Grande Salle et l'Académie française. Et puis finalement, on en a mis pas mal en cave. Mais on a gardé les plus beaux.
Comment s'est fait la sélection ?
Ça, c'est le secrétaire général de l'époque qui a dû travailler la question. Je ne sais pas très bien comment elle a été faite. En tout cas, les très beaux bustes sont dans les couloirs, sont dans les antichambres, sont dans la grande salle et dans la salle de l'Académie. Vous avez les bustes. Alors, je crois qu'il y a un projet qui consisterait à inventorier ceux qui restent et à savoir où pourrait-on les mettre sans que c'est un aspect cimetière, mais que simplement un côté décoratif. En tout cas, on est tranquille. Aujourd'hui, les gens font plus de bustes parce que d'une part, ça coûte trop cher et puis deuxièmement, Je rappelle le mot d'Anatole France. Regardant son portrait par Van Dongen, il disait « J'ai l'air d'un camembert qui coule ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, quand ils sont représentés, ne représentent plus grand-chose. Sauf mon ami Cardot, le grand sculpteur, qui a fait le De Gaulle et le Churchill, et qui traite ses modèles avec une intelligence et une finesse exceptionnelles. J'aurais bien aimé qu'il fît mon buste, mais c'est une prétention que je n'aurais pas.
L'Institut, c'est aussi les prix, les différents prix que vous attribuez.
Alors, les prix sont attribués par chaque académie. Il y a des prix, il y a un prix de portrait, Paul-Louis Weller, qui a été un grand aviateur et un membre d'Institut qui est mort plus que centenaire. Vous avez des prix de vertu, le prix Montyon. Vous avez des prix d'histoire, des
prix... Au total, 1000 prix différents.
1000 prix différents. Un millier de prix. Oui. Alors, cela permet l'attribution des prix, d'abord de discuter dans chaque académie et souvent dans chaque section d'académie sur les mérites d'un certain nombre d'ouvrages qui nous ont été envoyés ou qu'on a découverts, et brusquement de leur donner un coup de projecteur par l'attribution d'un prix qui, se donnant sous la coupole, donne une importance particulière à celui qui a écrit l'œuvre et à l'œuvre qui a été faite. Et ainsi que j'ai réussi, parce que j'avais aimé le livre, à faire attribuer un bon prix de l'Académie à la thèse de théologie d'un jeune prêtre très savant, l'abbé Laurent Villemain, sur une question qui est passionnante pour l'Église d'aujourd'hui, c'est pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction dans l'Église. C'est un problème de tout premier plan, eh bien il fallait qu'un coup de projecteur marquât l'essentiel de cette découverte représentée pour la première fois par une thèse.
Alors, soit les candidats se présentent, ou alors c'est vous qui allez les chercher, mais c'est-à-dire ?
Eh bien, dans tous les livres qui arrivent, et dans les livres qu'on découvre, on arrive à trouver des livres de qualité. Ce livre de grande qualité de l'abbé Villemain, c'est moi qui l'ai découvert, parce que le livre m'a plu, et donc je l'ai présenté à l'Académie, il leur a plu, et il a eu un prix qui lui a donné une certaine notoriété.
Donc, vous n'aviez pas rencontré l'auteur avant ?
Si, j'avais rencontré l'auteur avant, et j'avais eu la certitude que sa thèse valait la peine d'être lue et un peu exaltée. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est que les prix nous sont présentés, mais les prix nous peuvent être présentés par nous, sur un coup de cœur qu'on a eu pour un livre, n'est-ce pas ? Et puis alors il y a les prix de vertu nombreux.
Les prix de vertu encore aujourd'hui ?
Ah oui, la vertu n'a pas totalement disparu. Et vous, dans le prix Montyon, alors vous avez des prix qui sont un petit peu qu'on n'attribue plus pour une servante pauvre et honnête qui a vécu avec sa famille, une famille pendant plus de 30 ans, 50 ans, etc. Vous voyez, née de préférence dans le canton 2, etc. Ça, c'est des prix qui étaient fondés. Et ben on les accepte tels quels et on continue à les attribuer avec les difficultés de moyens, mais en se servant des renseignements qui nous sont donnés. Vous avez entendu parler de la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, la bienheureuse Jeanne Jugan. Eh bien, si on a redécouvert son rôle dans la fondation Jeanne Jugan, c'est parce qu'elle a reçu un prix de l'Institut sous le rapport de Dupin, dans lequel il a découvert que cette femme avait existé, qu'elle avait été enterrée sous les fleurs, par un curé ambitieux et, j'allais dire, malhonnête intellectuellement. Et il a redécouvert le rôle de Jeanne Jugan et elle est redevenue fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. Et quelques années après, elle est devenue bienheureuse du paradis, puisqu'elle est la fondatrice de cet ordre admirable que sont les Petites Sœurs. Eh bien, ça montre...
Vous avez rétabli la vérité.
Voilà, on a rétabli la vérité. Ce qui fait que ces prix peuvent servir non seulement à exalter des œuvres, mais à rétablir des vérités oubliées.
Merci André Damien de nous avoir fait partager vos connaissances sur l'histoire de l'Institut de France. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. Et nous vous invitons à vous connecter au site internet de l'Institut de France si vous souhaitez en savoir plus. Merci et à très bientôt.